Chez Graphéine, nous inaugurons une série d'articles intitulés « Temps et création ». L'idée est d'aborder sous différents angles le rapport entre le temps et la création, qu'il s'agisse du temps que l'on passe à créer, de la gestion de ce temps, des mécanismes psychologiques, historiques, etc. Voici le deuxième volet de notre série « Temps et création ». L'impact du temps sur le cerveau créatif. Nous aurons ici une approche scientifique. Comment notre cerveau perçoit-il le temps ? Quels sont les mécanismes qui se déclenchent lorsque l'on travaille sous pression ? Et comment les stimulants boostent-ils nos performances ? Cet article s'intéresse au fonctionnement de notre cerveau, pour savoir ce qu'il se passe lorsque l'on est charrette et que l'on travaille sous pression à la dernière minute. Pourquoi le temps semble parfois ralentir ou filer lorsque l'on crée ? La pression nous rend-elle vraiment plus efficace ? Et enfin, n'y a-t-il que les stimulants et les drogues pour favoriser la créativité ? On a lu des tas d'articles scientifiques, des livres très philosophiques et écouté des conférences soporifiques. Voici ce que l'on vous a concocté pour répondre à la question de la contrainte du temps sur l'efficacité créative. D'abord, qu'est-ce que le temps ? Faire un travail créatif en étant charrette, c'est créer sous pression et dans un temps limité. Cela soulève des questions existentielles du genre « Le temps existe-t-il vraiment ?» Vaste sujet qui nous replonge dans notre programme de philo de première. Essayons d'en faire un petit tour d'un point de vue philosophique et scientifique. Le temps est élastique et multiple. Il y a en effet plusieurs temps. Celui de l'horloge interne, des durées estimées, de l'horloge biologique, le cycle jour-nuit que l'on partage avec les animaux, le temps pastoral, le cycle des saisons, celui du calendrier, cyclique, social, des montres, organisation collective, de son temps de vie par rapport à un passé, vers la mort, perspective autobiographique, dissipation, de l'histoire avec un grand H, qui possède plusieurs chronologies possibles, le temps physique, un facteur, le temps mathématique, qui est mesurable et continu, et le temps psychologique, qui varie en fonction des émotions. On pourrait dire finalement avec justesse que le temps du créatif et celui des clients ne sont pas les mêmes, et que le temps des créatifs dépend lui aussi de beaucoup de facteurs. Chez l'être humain, la perception du temps, bien qu'il soit perçu, ne dépend pas d'un sens. C'est un ressenti individuel et subjectif, qui dépend de nos croyances, de nos émotions, de qui nous sommes, mais pas seulement. Notre perception du temps ou le degré d'organisation de notre temps est également un facteur culturel, qui n'est pas universel, contrairement à ce que pouvaient croire certains philosophes. Certains peuples n'ont en effet pas besoin de montres, ni de fêter les anniversaires, comme les Touaregs ou les Papous, et leurs membres n'ont d'ailleurs même pas de date de naissance. Dans les cas où il est respecté, le temps est avant tout un symbole social, une institution, pour réguler le comportement du groupe, un moyen d'orientation indispensable pour accomplir une foule de tâches diverses. Les horloges, par exemple, sont des symboles dont on apprend à décrypter les messages, mais elles ne sont pas le temps en soi. Dans un scénario de science-fiction, on pourrait d'ailleurs imaginer une société anarchiste qui décide de s'affranchir des codes du temps pour se libérer de ce qu'elle considérait comme un diktat social, une contrainte que jusqu'ici personne ne semble remettre en cause. Mais revenons à nos horloges. D'après le philosophe Bergson, il existe deux types de temporalité. La temporalité subjective, tout d'abord. Elle est vécue à travers les changements d'état, les durées, les rythmes. C'est une durée perçue. Cette temporalité est inhomogène et qualificative, propre à chacun, et ne peut être mesurée. Par exemple, le temps perçu est vécu quand on cherche une idée créative, qui peut paraître interminable ou extrêmement rapide quand on est charrette. Le deuxième type de temporalité est la temporalité relative. C'est la temporalité du monde qui nous entoure en tant que norme sociale, scientifique, abstraite et homogène. Cette temporalité est linéaire, régulière. Elle est extérieure à l'humain et peut être mesurée. Par exemple, le temps effectif passé en heures ou en jours pendant que l'on cherchait une idée. La première temporalité est donc interne et la seconde relative est donc externe. En se penchant un peu plus sur le temps subjectif, interne, on s'intéresse donc au fonctionnement de notre cerveau. Celui-ci est conçu pour percevoir les durées, les rythmes, la simultanéité, mais il sait aussi les estimer et les anticiper. Comment la notion du temps naît-elle alors dans notre esprit ? Notre cerveau produit des impulsions électriques qui font des allers-retours entre plusieurs zones, le thalamus et le cortex, pour être précise, et surtout dans l'hémisphère gauche. Ces zones corrèlent accumulateurs et impulsions et imposent un rythme au cerveau grâce au flux des neurotransmetteurs, plus précisément la dopamine, qui traverse les neurones. Ces mouvements de va-et-vient créent le tic-tac de notre horloge interne. En temps normal, le rythme de notre activité cérébrale est stable. Notre horloge interne perçoit des durées brèves, moins d'une seconde, pour permettre l'anticipation, la prise de décision et faire du lien entre un instant T et un instant T plus 1. Mais notre perception subjective du temps change suivant l'accélération ou le ralentissement du rythme de cette horloge interne, c'est-à-dire de la variation des flux de neurotransmetteurs. Le rythme peut varier en fonction de stimuli extérieurs, comme des émotions fortes, en cas de stress, par exemple, lors d'une charrette, de la vue d'un mouvement particulier, ou même d'un aliment, d'une réaction empathique, ou, dans le cas de prise de drogue, de stimulants et de psychotropes. La durée subjective du temps est ainsi modifiée, et on a l'impression que le temps passe plus ou moins vite. Pour faire un parallèle, imaginez un grand réseau routier reliant les villes, les neurones. Chaque synapse y serait un péage reliant une ville à l'autre et les neurotransmetteurs seraient les voitures allant d'une ville à l'autre en transportant des passagers, l'influx nerveux. Il faut aussi imaginer qu'ici les voitures sont plutôt en go fast et passent le péage à toute vitesse et sans payer. Il suffit de travaux ou d'un départ en vacances et le flux des voitures s'emballe. Le trafic est plus ou moins intense. Oui, mais, et quand on est charrette ? Tout dépend d'abord du caractère de la personne créative, et on verra ce point dans un prochain article. Face à une charrette ou un coup de stress, une personne peut être très stressée par l'échéance ou au contraire boostée par le challenge et se projeter dans un résultat à atteindre. Cela peut aussi être l'occasion pour elle d'être très concentrée sur la tâche à accomplir et donc d'être très efficace. Penchons-nous d'abord sur le premier cas de figure. Suivant notre caractère, notre organisme peut se mettre en état d'alerte lors d'un stress intense. Les flux électriques, les signaux transmis par les neurotransmetteurs augmentent. Les impulsions et les échanges s'intensifient, le rythme s'accélère. Notre organisme distord notre perception du temps et on a l'impression que le temps est plus long. Notre système nerveux sympathique se met en action et accélère notre métabolisme. Ce réflexe d'autodéfense primitif nous permet d'agir en un rien de temps. Tout notre corps est stimulé, nos muscles sont prêts à bondir, nos sens sont plus éveillés, notre cœur bat plus vite. Le corps agit sans demander la validation du cortex et notre instinct de survie, un héritage préhistorique du temps où on risquait de se faire bouffer par un fauve, prend le contrôle. Résultat, sous cette montée d'adrénaline, on est plus vif et efficace, car on peut réagir ou faire plus de choses dans le même temps effectif imparti. C'est ce qu'on appelle le fameux réflexe du « fight or flight » inventé et étudié par Walter Cannon en 1915 qui permet aux animaux, et donc aussi aux hommes, de se battre, de s'enfuir ou d'être tétanisés en cas de danger. Il peut aussi d'ailleurs arriver donc que l'on soit complètement paralysé à cause du manque de temps. En revanche, un stress intense comme celui infligé par une charrette ne doit pas être permanent ni répété toutes les nuits, sans quoi il aurait l'effet inverse. Le stress chronique remplace peu à peu cette adrénaline par du cortisol, ce qui perturbe notre système nerveux et notre mémoire, et épuise notre système immunitaire en maintenant notre corps dans cet état d'alerte et de peur permanent. Le corps n'arrive plus à suivre les sollicitations de son environnement, ce qui peut engendrer des maladies diverses et une dépression ou un burn-out sur le long terme. On verra des solutions dans un autre article. D'autres personnes, à l'inverse, sont boostées par le stress de la charrette, qui alimente des motivations internes, comme le plaisir de trouver une idée nouvelle ou de rendre un projet, ou des motivations externes, comme le salaire et la reconnaissance du client ou de ses pairs. Dans ce cas, c'est la projection, dans un futur proche, à la fin de la charrette et de ses conséquences positives, qui motive le travail. Le stress devient alors un bon stress. Soutenu par une forte motivation, il permet de faire jaillir la créativité. Troisième cas de possibilité, entrer dans le flow, un état de conscience optimal dans lequel on est au maximum de nos capacités. On en reparle juste en dessous, et plus en détail dans le quatrième article de cette série, car vous verrez, ça donne envie. Mais si tout cela se met en action dans notre cerveau, c'est en partie grâce aux neurotransmetteurs comme la dopamine. La dopamine, on l'a vu en tout début d'article, est le principal messager chimique lié à notre perception du temps, puisqu'elle joue un rôle dans notre horloge interne. Mais pas seulement. Elle est responsable de l'anticipation et de la motivation, ce qui permet au corps l'activation d'un comportement, même risqué, en vue de satisfaire un désir. On appelle la dopamine l'hormone du désir, et à tort l'hormone du plaisir, car elle permet de nous mettre en action. Elle nous motive dans le vrai sens du terme. Plus le stimulus d'origine est jugé agréable, manger, faire l'amour, prendre des drogues, de l'alcool, du chocolat, recevoir des notifications sur son smartphone, ou atteindre ses objectifs et rendre un travail à l'heure après une charrette, plus le cerveau sécrète de la dopamine, et plus il associe cette action ou cet objet à quelque chose d'encore plus agréable. Dès lors, c'est un cercle infini. La dopamine est libérée à la simple vue ou pensée de cet objet, de cette substance ou de cette personne, que le désir soit assouvi ou non. Cela provoque une sensation d'attente, d'anticipation de ce plaisir et d'excitation neuronale. Et qui dit excitation neuronale dit cerveau stimulé et demande de passage à l'action. C'est parce que la dopamine engendre ce besoin de recherche de récompense et de satisfaction que les connexions neuronales sont renforcées et que le cerveau fait le lien entre un instant T sans intérêt et un instant T plus 1 agréable. On pourrait alors l'appeler l'hormone de l'anticipation. C'est pour cela qu'il est difficile de se débarrasser de sources de dopamine comme les notifications des réseaux sociaux par exemple. A l'inverse, on cherchera à la stimuler pour être plus efficace et concentré et avoir du plaisir à effectuer une tâche particulière, en créant par exemple. Mais si l'on observe un peu plus le fonctionnement du cerveau, on réalise que la dopamine est aussi bien libérée lors de moments agréables que lors de sensations désagréables, comme en cas de stress ou de peur. Ce n'est donc pas la nature de la sensation qui détermine la production de dopamine, mais plutôt la capacité du cerveau à se projeter. La dopamine provoque le désir, qui provoque l'addiction, qui engendre la passion, qui permet d'entretenir une concentration hors du temps sur un sujet donné, permettant ainsi d'être efficace et de créer à nouveau de la dopamine, et ainsi de suite. La dopamine permet également de réduire les distractions pour mieux nous concentrer sur un objectif. Et c'est pour cela que l'on se sent plus efficace, que l'on travaille sous stress ou par plaisir. On comprend dès lors qu'on ait envie de retrouver cette sensation de concentration intense, de motivation et de déformation du temps pour être plus performant au travail. Et c'est souvent ce que l'on fait sans même le savoir. La caféine ou la nicotine par exemple dope l'apport de dopamine dans le cerveau en libérant artificiellement cette hormone parmi d'autres. Les amphétamines, comme la MDMA ou l'ecstasy, ou la cocaïne, par exemple, multiplient jusqu'à 400 la production de dopamine. L'aldérol, un médicament dérivé de l'amphétamine, très utilisé chez les étudiants aux USA, produit lui aussi le même effet sur le cerveau, en boostant les processus de l'attention, de la mémorisation ou la motivation, par la production de neurotransmetteurs spécifiques. Mais rien n'est réellement aussi simple, et c'est là l'intérêt d'étudier le cerveau, qui ne libère en réalité pas qu'un seul type de neurotransmetteur à la fois. Il y a tout un cocktail d'hormones qui provoque un savant mélange de réactions dans notre cerveau, comme la sérotonine, qui favorise la concentration et nous aide à rester éveillés, couplée avec la dopamine, ou la norépinéphrine, qui active le système nerveux sympathique, qui nous met en alerte. Vous comprenez mieux pourquoi beaucoup de créatifs sont aussi cocaïnomanes. Chez Graphéine, nous avons préféré créer notre propre drogue. Le nom Graphéine est, comme nous l'appelons, la substance active du graphisme. L'utilisation de Graphéine provoque des visions, stimule la créativité et rend sérieusement dépendant. Vous en avez peut-être déjà senti les effets. Car comme tous les stimulants, s'ils permettent en effet de booster l'éveil et la concentration, ils créent aussi un gros manque une fois l'effet passé. Et ce sont des drogues dures, on le rappelle. Lorsque le cerveau en reçoit trop, il sature et bloque le transport et les échanges entre neurones. Il ferme le péage, en gros. Cela crée un manque qui crée une addiction sévère, puisque le cerveau, lui, en réclame constamment et ne peut plus s'en passer. Imaginez la difficulté et le manque que vous ressentez si vous êtes forcé à ne pas regarder votre smartphone pendant toute une journée et intensifiez-la par 400. Vous y êtes. Dans le cas de la charrette, donc, qu'on soit motivé par un stimulus externe comme la peur et le stress d'un manque de temps, ou par un stimulus interne comme le soulagement et la fierté du rendu, l'anticipation et la projection vers ce moment T+1 inondent notre cerveau de dopamine et tout un cocktail d'hormones qui nous font agir. Plus les échanges entre les connexions neuronales libèrent des neurotransmetteurs spécifiques, plus notre cerveau est concentré et se déconnecte de toute notion du temps, plus on peut créer efficacement. Mais la bonne nouvelle est qu'il existe un autre moyen de stimuler naturellement toutes ces hormones et de booster notre cerveau. Oui, parce que la nature a pensé à tout, évidemment. Encore faut-il savoir comment faire. Il est possible d'atteindre le même état d'éveil que sous stimulant chimique, mais sans cocaïne ni drogue, et donc sans effet indésirable. Oui, cet état d'excitation s'aiguise et peut même se provoquer volontairement. Lorsque l'on trouve un sujet qui nous passionne au point de pouvoir y focaliser toute son attention, on peut atteindre le flow, un état de conscience optimal qui nous permet d'être le meilleur de nous-mêmes, dans toute notre intensité. On parlera de comment atteindre le flow dans notre 4e article, mais ce qui nous intéresse ici est de savoir ce qui se passe dans notre cerveau lorsque l'on entre dans le flow. Notre cortex préfrontal, responsable de tout ce qui est lié à l'organisation, au mental, au rationnel, baisse de régime. Et notre hémisphère droit, siège des émotions, de la créativité et de l'instant présent, prend le dessus. On est ainsi pleinement dans l'instant présent. Notre ego s'efface et tout devient limpide. Notre créativité glisse et tout se débloque. Simultanément, tout un tas de messagers chimiques sont libérés, dont la dopamine, la norépinéphrine, la nandanine, la sérotonine et l'endorphine. Pour faire simple et sans rentrer trop dans les détails, la norépinéphrine est le précurseur de l'adrénaline et joue un rôle dans l'attention sélective, la vigilance et l'excitation. L'anandamine tire son nom du terme sanskrit ananda, qui signifie béatitude. C'est un cannabinoïde naturel. Sa libération dans le cerveau est analgésique, antidouleur. La sérotonine joue un rôle essentiel dans l'équilibre des humeurs, l'homéostasie et le maintien d'une situation agréable. Enfin, l'endorphine est aussi un analgésique qui procure une sensation d'extase. C'est donc une bombe libérée naturellement par notre corps. L'état cérébral du flow est si puissant que si l'humain avait le choix, il choisirait le flow avant la drogue, le sexe ou la nourriture. Steven Kotler, chercheur et spécialiste à ce sujet, parle d'une libération de dopamine 400 fois plus puissante qu'en temps normal. C'est l'équivalent de la sécrétion provoquée par une prise de cocaïne. Si on parle d'excitation, de concentration et de plaisir, c'est que les émotions sont en effet au cœur du processus créatif. Le cerveau est perpétuellement en quête d'équilibre, d'harmonie. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. En plus de la cascade de réactions naturelles engendrées par le stress extérieur, les scientifiques ont observé que les personnes aux émotions intenses, dépressives ou euphoriques, sont plus créatives que les autres. Ou du moins, plus les émotions sont élevées, plus cela a d'impact sur la créativité, même sans nécessairement tomber dans les extrêmes. Les personnes déprimées ou dans un état émotionnel négatif parviennent mieux à trouver des solutions créatives à un problème donné, à condition que la tâche soit jugée intéressante et donc utile. Sinon, c'est l'inverse qui se produit. Les émotions négatives poussent le cerveau à trouver des moyens pour s'en sortir et ainsi rétablir l'équilibre émotionnel. À mesure que ces solutions apparaissent, l'état de ces personnes s'améliore. C'est sûrement pour cela que, pour celles qui sont stressées par une charrette, la fulgurante apparition de l'idée peut provoquer un vif sentiment de soulagement, comme si le travail était déjà abouti. Inversement, le fait de ne pas trouver d'idée peut engendrer lui aussi un stress qui paralyse, tout dépend donc de son état d'esprit. À l'autre bout du spectre émotif, les personnes sujettes aux émotions positives plus vives augmentent également leur créativité grâce à leur capacité à faire jaillir et associer plusieurs idées différentes et nouvelles. Le cerveau ayant tendance à effacer les mauvais souvenirs pour ne garder que les bons, les personnes plus positives que la moyenne ont donc plus de matière dans laquelle piocher. Elles peuvent ainsi produire plus d'idées et d'images créatives en les associant grâce à leur mémoire ainsi élargie par leurs émotions positives. Mais finalement, si la création vous rend complètement neurasthénique et désintéressé par la tâche en question, on ne vous garantira pas d'être efficace. Un haut niveau de stress, associé à un intéressement bas, ne produira rien de bien glorieux. Mais dans ce cas, mieux vaudrait plutôt questionner votre vocation pour le design. Dans les prochains articles, on vous donnera quelques clés pour booster votre créativité et stimuler votre motivation. À bientôt !